Mais c'est un merveilleux, une merveilleuse fête que je vous ai dit la semaine dernière, je n'aimais pas pendant des années. Je voyais une superficialité, je voyais une commercialité, une artificialité, et je ne voyais pas comme il fallait la vraie raison. Oui, je l'avais dans ma tête, bien sûr, je n'ai jamais été sans entendre ça depuis ma naissance. Et je voyais ça comme quelque chose de nécessaire, mais pas trop profonde. Je n'aurais jamais pu être plus loin de la vérité en pensant à cela. Et je voudrais que nous fassions notre attention sur le verset que je vous avais mis sur l'écran au début du message, pour voir cinq marches d'un escalier depuis l'invisibilité de Dieu jusqu'à l'incarnation à Dieu qui est venu pour habiter parmi nous. Cinq marches sur cet escalier en cinq versets. Jean chapitre 1er verset 1 jusqu'à verset 14 jusqu'à 18. Je vais le lire. Vous pouvez suivre et dans vos Bibles ou dans vos Bibles ou à l'écran. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. C'est Jésus, la parole. Et nous avons contemplé la gloire de cette parole. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et il s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé. Après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons reçu de sa plénitude. Et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Je voudrais que nous voyions une par une, et je vous donnais ce passage et vous donnais 30 minutes pour réfléchir et puis après vous donner un contrôle, est-ce que vous pouvez voir le bas jusqu'au haut de cet escalier de cinq marches où Dieu se présente depuis l'invisibilité jusqu'à visibilité pour que nous puissions le connaître depuis le plus bas, c'est-à-dire plus bas, pas bas dans le sens d'important, mais bas dans le sens de notre incapacité de le connaître à cause de son essence, de son être, de celui qu'il est. Et nous voulons voir cela. Le tout premier va vers la fin. Et nous disons, personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Et si nous contemplons cela, et je le mettrai ici en haut de l'écran, personne n'a jamais vu Dieu. Pourquoi? Mais une première raison, c'est parce que Jean 4, verset 24, Dieu est esprit. Et ceux qui veulent l'adorer doivent l'adorer en esprit en vérité. Dieu nous a créés adorateurs. Je répète, Dieu nous a créés adorateurs. Et il n'y a personne qui n'adore pas. On ne peut pas ne pas adorer. On est correct de dire, j'adore ça. Parce que probablement, ça c'est le objet de votre adoration. Ce n'est pas le bon, mais tout le monde adore quelque chose ou quelqu'un, ou on explose un applaudissement, on aime le sport et on aime des concerts et on aime des personnes pour qu'on puisse lever les mains vers le haut et crier et dire bravo. Ça, c'est l'adoration à 100%. Ce n'est pas mauvais. Au contraire, il a été créé pour être bon. Il est sans doute et absolument sûrement mal utilisé, mal employé, entièrement tordu. Mais tout le monde ne peut pas résister cette puissance à l'intérieur de nous qui ne peut pas ne pas adorer. Il nous a créé d'être des adorateurs et nous allons adorer, que ce soit Dieu le Créateur ou que ce soit la création. Il n'y a que deux choix. On adore le Créateur, on adore la création. Dieu est esprit, mais aussi quand Moïse disait à Dieu, montre-moi toi-même, l'Éternel dit, ce n'est pas possible que je te montre moi-même, parce que personne ne peut voir Dieu et vivre. Et Paul va amplifier cela en 1 Timothée chapitre 6, verset 16. Pourquoi on ne peut pas voir Dieu? Mais parce que lui seul possède l'immortalité, lui seul habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Si jamais Dieu permet que vous voyez le inaccessible, le invisible, pour que ce soit visible dans toute sa gloire, vous allez désintégrer, vous allez n'exister plus. Ça ferait trop. Tu disais ainsi à Moïse. Donc, 1 Timothée 1,17 aussi, au roi des siècles immortels, invisibles, ça parle de Jésus. Au roi des siècles immortels, invisibles, seul Dieu, il est en train de parler dans le contexte de Jésus, soit l'honneur et gloire au siècle des siècles. Nous adorons des choses visibles, mais notre adoration est une chose de l'esprit. Notre adoration n'est pas matérielle. Nous pouvons applaudir ce que nous voyons matériellement, mais l'adoration, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Et cette adoration de Jésus, c'est pour cela quand Jésus s'est présenté devant le monde, il n'était qu'un petit bébé à Bethléem, et puis il est grandissait jusqu'à, nous disons, un garçon de 12 ans, intelligent, il commence à se faire connaître. Et puis, à un moment donné, un homme de 30 ans commence son ministère, mais il n'était rien de spécial de son mime, de son apparence. Et s'il était ici aujourd'hui, à Bordeaux, sur les rues, à moins que vous le connaissiez déjà, vous n'allez même pas jeter un deuxième regard sur lui parce que il n'était pas adorable de l'extérieur. Donc, l'invisible doit, d'une manière ou l'autre, devient visible. Dieu, personne n'a jamais vu Dieu. La deuxième chose que nous voyons ici, et ça c'est, Dieu se fait révéler le bébé à Bethléem, d'abord à travers la loi de Moïse. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Parfois, j'ai fait la faute, et je crois que vous avez fait la faute, de penser à deux choses qui sont en contraste. La loi, grâce et vérité. La loi est donnée par Moïse, ça c'est une chose rigide qu'il faut absolument garder. Par contre, la grâce de l'autre côté et la vérité, alors ça c'est Jésus-Christ. Comme si la loi n'est pas gracieuse, la loi n'est pas vérité, mais Jésus-Christ est gracieux. Ce n'est pas ça du tout. Et il y a pas mal de versets qui peuvent nous aider essayer à se voir, mais je me suis restreint de ne mettre que deux en Jean et trois et une seule en Romain, purement parce que nous avons déjà parlé de cela assez récemment. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jean 3:16. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, première idée, Moïse a élevé le serpent dans le désert. Pourquoi? Parce que des gens qui étaient en train d'être mordus par des serpents puissent regarder avec les yeux de foi et être guéris sur place. Un serpent en bronze fabriqué pour le moment immédiat. Il n'y a pas de grâce dedans. Il n'y a pas de vérité dedans. Ce n'est pas contre Jésus. Au contraire, ça indiquait une direction vers Jésus qui viendrait plus tard. La grâce et la vérité viendraient par Jésus, mais la grâce et la vérité se démontraient déjà. Chapitre 5, verset 46. Si vous croyez Moïse, disait Jésus, vous me croirez aussi, parce qu'il a écrit de moi. C'est pas Moïse d'un côté, mais voilà, il a été annulé, parce que enfin, il y a quelque chose qui s'oppose. Pas du tout. Moïse disait Jésus-Christ. Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Et rappelez-vous, quand nous avons parler sur la justice de Dieu. Nous avons vu, mais maintenant, Paul veut exprimer, souligner le fait, ce que je viens n'est pas une nouvelle doctrine. Je ne suis pas un secte, un culte qui a fabriqué une nouvelle bizarre idée à côté de la plaque, parce que je sais bien que je peux avoir quand même certains adhérents qui vont me suivre. Il y a plein de gourous religieux qui font ça depuis des milliers d'années déjà. Paul n'était pas ça. Il disait, sauf que je suis en train de montrer, c'est que la loi, que la justice de Dieu sans la loi est manifestée. Rien de nouveau, c'est quelque chose qui rend témoignage, la loi, Moïse, les prophètes, un nom pour les l'Ancien Testament. L'Ancien Testament prévoyait, préparait, préfigurait, prédisait Bethléem et le petit bébé. Donc, la deuxième chose, la première chose, Dieu est invisible, mais Dieu commence à se révéler à travers la loi de Moïse. On ne le voit pas dans la substance. Par contre, on voit de la substance. On voit des animaux qui sont égorgés, dont leur voix est déversée, et tous les jours on voit cette substance matérielle sanglante, pas beau, qui prévoyait quelque chose, qui prévoyait en tant qu'un nombre une réalité que, allez, nous allons voir plus tard. Et puis, la troisième pas, commencez par l'un. Visibilité de Dieu, monter un deuxième pas pour voir que Dieu commence à se faire visible, mais il n'est pas visible. Mais nous lisons, la parole a été faite chair. La parole a été faite chair. C'est ce que nous avions sur le tableau quand vous entrez tout à l'heure. La parole a été faite chair. Ça, c'est verset 14. Jean, chapitre 1, verset 14. La parole a été faite chair. Il faut mieux que nous mettions le premier verset, parce que si on aurait commencé depuis le premier verset, on aurait commencé par lire « Au commencement était la parole, au commencement, et la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Qui est la parole ?» Mais verset 14, « La parole est celui qui a été faite chair, mais qui était avec Dieu depuis le début, depuis avant le début, qui est Dieu. » Cette parole qui arrive n'est pas juste une annonce, n'est pas juste un messager, c'est vertueux. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a habité parmi nous. Savez-vous, je l'avais su, mais je n'avais pas fait une étude sur cela avant cette semaine. La parole a été faite chair, elle a habité. Et le mot, c'est suné, qui veut dire tabernacle, mais c'est aussi un verbe. Sunu, qui est tabernaclé. Je tabernacle, tu tabernacles, nous tabernaclons. On dit pas ça en français, mais c'est un verbe. La parole a été faite chair. Pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il tabernacle. Et souvent, quand on pense à un tabernacle, c'est un mot qui veut dire tente. Une tente, une question de éphémère, de temporaire, de provisoire, de pas permanent. Mais ce n'est pas ça. J'étais étonné cette semaine de savoir que dans le 20, à peu près 25 fois que ce mot est employé, pour la plupart en tant que nom, visant le tabernacle dans l'Ancien Testament, mais 5 fois en tant que verbe, ce n'est jamais quelque chose de temporaire, pour la plupart c'est en Apocalypse. C'est un mot qui veut dire être avec, parmi. Si je viens ici, et je suis très très riche, et j'arrive à Pessach, et je construis un palais, et puis j'ai mis les murs autour très très élevés, ça annonce mon désir par rapport à ma communication avec l'extérieur. Mais si je viens dans une tente, et je garde ma tente dans votre jardin, ça veut dire que je risque d'utiliser votre WC, je risque de manger à table avec vous, et on se voit entre nous, on sait ensemble, ça donne une autre annonce par rapport à la disponibilité envers les personnes sur qui Jésus est venu pour tabernacler. Donc, il est invisible. Il commence à se faire voir dans les cérémonies et dans les rites, et les 10 commandements ne sont que des réflexions de des attributs de Dieu. Nous avons touché ça il y a quelques temps. Merveilleux, chaque des 10 commandements ne sont qu'une réflexion, une verbalisation de la nature de Dieu lui-même. Il n'est pas encore visible. Il n'habite pas encore parmi, dans le jardin de chaque chrétien. Il est toujours dans le tabernacle. Personne ne peut entrer, sauf des gens qualifiés et prêtrés pour cela. Regardez, ça c'est la première fois que ce mot est utilisé dans le Nouveau Testament. Ça c'est la dernière fois que ce mot est utilisé dans le Nouveau Testament. J'entendais du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. C'est loin ça. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Nous avons habité, c'est le mot, sunu, tabernacle. Donc nous avons le verbe et le nom dans ce verset. Hébreu est écrit que Christ est le ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Christ est le tabernacle qui est venu pour tabernacler avec nous. Il fallait Noël. Il fallait absolument Noël. Et entre parenthèses, si Christ est venu rien que pour mourir pour nos péchés, ce que nous disons tout le temps, il aurait pu venir quelques jours avant la crucifixion être crucifié, mis dans un tombeau, ressuscité et rentré tout de suite au ciel. Ça y est, il n'a pas pu faire ça. Et comme nous avons parlé, bon, ce n'est pas l'étude aujourd'hui, je ne veux pas éloigner trop de notre point de vision aujourd'hui. Si Christ ne faisait que mourir pour nos péchés, il aurait pu prendre la pénalité de nos péchés, mais il n'y aurait aucun bon crédité à notre compte. Christ a dû vivre 33 ans sous la loi, ou combien de fois il dit ça, sous la loi, afin de, à sa mort, il qualifie pour être non simplement notre sauveur de péché, mais celui qui impute sa justice, on sera neutralisé par sa mort, mais pas justifié par sa mort. Il fallait aller plus loin que Adam dans le jardin. Il fallait être juste. La vie de Christ lui a qualifié de nous imputer sa justice, pas simplement la peine de nos péchés. Quatrième pas. Alors, dans notre texte, Dieu est invisible. Dieu commence à se révéler à travers la loi. Il commence pendant 2000 ans, depuis Moïse jusqu'à Bethléem, de préparer les gens pour Bethléem, pour les tables, pour la crèche, pour le bébé qui va naître. Et troisièmement, il est venu au tabernacle parmi les hommes. Mais qui est cette personne? La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Je ressoulignais le fait qu'il n'y a pas de contraste entre deux choses opposées, mais si vous voulez, une comparaison entre une chose qui commence et une chose qui finit. On commence à être informé et motivé et inspiré pour quelque chose dans l'avenir. On a ce sentiment de ce qui se passe, ce n'est pas la fin. Dieu est plus que simplement quelqu'un qui exige qu'on égorge des animaux pour que le sang se verse. Non, ça doit avoir un sens. Ils n'ont pas compris. La grâce après Moïse, oui, la grâce est là. Oui, la vérité est soulignée. Mais la réalité de la vérité ne sera pas manifestée avant que Jésus s'incarne. Sachez que Jésus était éternel en tant que Dieu. Il n'était pas éternel en tant que corps. Il a pris un corps à Bethléem. Il ne l'avait pas avant. Il l'a pris pour une raison déterminée avant la fondation du monde. Ce n'était pas un superman qui arrive parce que le plan est tombé dans l'eau. Plan A est tombé dans l'eau. Christ arrive pour mettre en action plan B. Et il n'y avait jamais eu un plan B. Plan A. Dans tous les détails. Y compris les terribles choses qui arrivent, même cette semaine, sur votre écran à la télé. Ce n'est pas Jésus qui va venir avec un autre plan parce que tout ce qu'il a fait est tombé dans l'eau. Rien n'est tombé dans l'eau. Tout ceci est une, la grâce et la vérité allaient venir par Jésus-Christ que personne n'avait jamais vu. Dieu est invisible. Il commence à se révéler dans la loi. Il s'est révélé dans son incarnation, et il se démontre, quand vous voyez quelqu'un pour la première fois, il n'est qu'un autre être humain. Il y a 7 milliards d'humains sur la planète. qu'un est un identique avec un deuxième. Si vous voyez de près, waouh, vous avez la même ressemblance. Mais si vous zoomez de plus en plus près, vous voyez des millions de différences entre deux personnes qui semblent ressembler. Ce n'est qu'une ressemblance. Jésus serait pareil. Il n'était pas extraordinairement beau, il n'était pas extraordinairement laid, il est devenu ça par sa souffrance. Mais sur la rue de n'importe quelle ville, il n'était qu'un homme très ordinaire. La vérité et la grâce sont venues par cet homme, je ne ressens rien du tout. On cherche à avoir une activité, une expérience mystique. Il n'y avait pas de mysticisme. Il est venu pour accomplir historiquement les plans prévus depuis l'éternité passée jusqu'à l'éternité présente pour qu'il puisse accomplir la volonté de son Père. Pour que, quand des gens commencent à voir cette personne, ils sont détestés par certaines parce qu'ils ne pouvaient pas ne pas admettre que cette personne est incroyablement différente. Cette personne ne se met jamais en colère pour lui-même. Il se met en colère pour la justice. Et ça, c'est clair. Sa colère est d'une certaine pureté et propre et correcte que des personnes qui vivent, voulaient vivre sous la pureté. En dessous, la pureté était en, ou bien en repentance, dans un état de repentance, ou dans un état d'opposition et d'élimination de cette personne qui dévoile ma méchanceté simplement par sa présence. Et quand les gens ont été envoyés pour attraper Jésus et des huissiers, ils sont rentrés main vide. Où est cet homme? Personne ne parle comme lui. La gloire de Dieu commence à sortir simplement dans sa manière de vivre. Christ est venu pour vivre une vie pleine de vérité et pleine de grâce. Intéressant, j'avais souligné, pleine de grâce et de vérité. Là, grâce sur grâce. Là, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, les deux mots. Il y a plein d'autres attributs qu'il aurait pu choisir, mais il est venu, ces deux mots disent tout. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est incroyable que Jésus pourrait réclamer être, pas juste être vrai, avoir la vérité, dire la vérité, mais être l'essentiel de vérité. Il se fait visible en Jésus-Christ pour que nous puissions voir cette grâce et cette vérité. Comme je vous ai montré déjà en haut dans l'autre, la parole a été faite chair et nous avons contemplé avant. Moïse ne leur a pas permis de faire contempler. Ce n'est pas une question maintenant de réflexion, c'est une question de regarder. Nous avons regardé avec des yeux la gloire de Jésus, pas comme quelque chose d'externellement visible, parce qu'il était un homme ordinaire. Quand il regardait la personne, vous voyez que deux yeux, deux oreilles, un nez, une bouche, deux mains comme tout le monde. Donc, on comprend autrement. Une gloire comme la gloire, je signe la gloire du Père, parce que c'était la gloire du Père. Ah oui, c'était la gloire du Fils. Mais la gloire du Fils était la gloire du Père. Il est venu pour manifester, pas comme des gens cherchent à comprendre. Cet petit paysan, avec un accent du Nord, entrer à Jérusalem, la manifestation dans un corps humain de la gloire du Père, et Jean va dire, c'est Jean aussi, dans un Jean, ce qui était dès le commencement, Jésus, c'est le Seigneur. Ce que nos yeux, que nous avons entendu de nos oreilles, nous avons vu de nos yeux, nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de Dieu. Cette personne invisible, le Dieu invisible, intouchable, inaccessible, est un Dieu qui maintenant touche, on voit, on entend, il tabernacle avec nous. Je lis 2 Corinthiens 4, 18, pour souligner une idée que j'aimerais bien que vous saisissiez. J'espère que vous êtes toujours avec moi. Les choses que nous voyons ne sont jamais les choses qui sont au sommet de la réalité. Ils sont tous passagers. Ils sont tous éphémères. Tous, aucune exception. Les choses qui sont réelles, sont invisibles. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, c'est pas son corps qui nous a sauvés en tant qu'un corps, il n'y a rien de différent de son corps que votre corps. Il était né sous la loi, il se fatiguait, il était peut-être malade. Nous ne lisons pas qu'il était malade, mais nous lisons qu'il était très fatigué de s'asseoir dans sa fatigue. Mais nous regardons à ceux qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères. Mais les invisibles sont éternels. Ça ne veut pas dire que tout ce qui est invisible est éternel. Ça veut dire que tout ce qui est éternel est invisible. Tout ce qui est vraiment éternel est invisible. Dieu, dans ce passage, il est clair, est invisible. Et puis, il se manifeste dans la loi. Et puis, il prend un corps au tabernacle parmi les hommes. Et puis, qu'est-ce qui arrive quand il commence à vivre, commence à sortir dans sa vie la vérité du fait qu'il est la vérité, est plein de grâce. Et grâce est le sommet des attributs de Dieu. Nous avons parlé il y a quelques mois sur ce merveilleux chose, le fait que Dieu permet le mal pour qu'il puisse démontrer la plus grande qualité qui est là, mais qui serait indescriptible, même invisible, mais impensable, à moins qu'il puisse démontrer sa grâce sur des non-méritants à cause de leur péché et leur rébellion contre Dieu. Et Jésus n'a jamais dit quoi que ce soit de mauvais contre qui que ce soit dans soi-même. Vous avez été irrité cette semaine par un ami ou par quelqu'un, mais vous êtes positionné par rapport à votre amour envers cette personne de l'excuser et de ne pas excuser. C'était un premier contact, il vous a irrité, ce n'est pas la peine, on a irrité contre lui, c'est pas la peine que je le revoie, c'est fini. Tous les jours on rencontre des personnes qu'on ne voit qu'une seule fois. Mais plus que vous aimez quelqu'un, plus que vous acceptez ses défauts, plus que vous acceptez des choses qui normalement vous mettraient très irrité, mais parce que vous l'aimez, vous l'excusez. On s'excuse, on excuse les autres, par amour. Quand Jésus dit, aimez les uns les autres, comme moi je vous ai aimé, il a dit, franchement, vous n'êtes pas des aimables. Si j'étais comme vous, j'aurais été irrité jusqu'au bout, j'aurais vous laissé à l'écart, je l'ai pas fait. Je n'étais pas même une seule fois irrité, personnellement, à cause de vous. Aimez les uns les autres comme ça. Est-ce que vous l'avez vécu ça à la lettre cette semaine? Pas moi. Les choses invisibles sont ceux qui commencent à sortir dans la vie de tous les jours de Jésus. Et nous avons vu l'invisible dans un corps en train de vivre l'inaccessibilité de Dieu dans un corps humain visible. Merveilleux.
Et le cinquième. Invisible se fait visible dans la loi, se fait visible dans un corps, se fait visible dans Jésus-Christ, grâce et vérité. Et puis nous avons tous reçu de sa plénitude. Et grâce sur grâce, sur grâce, sur grâce. Nous avons reçu ça. Comme les sept images que nous avons vues la semaine dernière en Luc 2. Paix aux hommes. Quels hommes? Ces hommes qu'il agrée. Est-ce qu'il agrée tous les hommes? Malheureusement pas. Ceux qui croient en lui, sont agréés par lui. Nous avons reçu de sa... Avez-vous reçu de sa plénitude? Je souligne le mot reçu, recevoir. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. L'avez-vous reçu de sa plénitude? Ça, c'est grâce. Grâce, c'est un verbe qui se déverse. La plénitude de Jésus, il doit être reçu. La prière de l'apôtre Paul, en Éphésiens chapitre 3, c'est que nous puissions connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que nous soyons remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Christ est venu pour tabernacler parmi nous à Pessac, pour que nous puissions l'observer dans les évangiles. Bien sûr, il n'est pas ici encore. George Washington, non plus. Les personnes dont nous avons beaucoup respect, ils ne sont pas là non plus. Mais nous croyons quand même, combien plus nous avons à croire dans ce personnage où il nous a été laissé des récits où Luc, dans un chapitre 1, verset 1 à 4, souligne le fait que j'ai fait avec une grande perspicacité, une grande prudence de dire exactement, avec précision, la vérité de la personne de Jésus-Christ, et nous pouvons scruter Matthieu, Marc, Luc et Jean pour voir comment il était. Mais vous devez le recevoir, vous pouvez voir tout ça dans ma tête. Vous pouvez être comme moi, né dans une famille chrétienne, n'ayant jamais entendu rien de contraire, croyant cela ici, sans participer dans cette plénitude qui doit être reçue. Dieu a voulu que toute plénitude demeure en Christ. Je termine par ce verset. Dieu est amour. Amour, c'est un mot qui couvre le reste. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous parce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Dieu est invisible, c'est un problème. Et ce problème a été, alors comment être réglé? Moïse. Ce problème était encore réglé quand Jésus est venu avec l'âme, et Dieu démontre visiblement sa grâce et vérité dans la personne de Jésus-Christ. Et nous avons le record pour lire pour réfléchir, pour voir ses actions proactives, ses réactions proactives et passives par rapport à toute accusation personnelle.
Et Dieu donne la plénitude de Jésus-Christ à Noël, à qui que ce soit qui croit. Croyant, mais pas pratiquant, pas possible. Croyant, transformé, depuis petite à petite à petite à petite à notre glorification. Oui.